Entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien.
Suite dans le cadre de cette émission entre vous et nous avec Skalsim Shakiri, pourquoi se prémunir est indispensable quand on parle de cyberattaque? C'est vrai qu'il y en a eu passablement ces derniers temps, me semblerait-il. Donc vous avez des conseils à nous donner, la sécurité informatique. Comment se prémunir, Skalsim?
Effectivement, aujourd'hui, qu'on soit une PME, une commune ou un particulier, on sait que nos données, elles sont importantes, c'est devenu une cible. Pour donner un petit peu un cadre, le nombre de cyberattaques a explosé ces dernières années. Rien qu'en 2024, il y a eu environ 63 000 signalements qui ont été faits au niveau suisse.
Wow.
Sur ces 63 000, environ 10 sont des PME. On se rend compte que les petites entreprises, valaisannes ou autres, ou que les communes, se retrouvent être des cibles. Les attaquants, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon, les attaquants, automatisent leurs outils, puis ça permet en fait... pour eux de lancer des filets qui sont beaucoup plus conséquents que ce qu'ils faisaient avant. Et puis, ça a souvent des conséquences qui sont catastrophiques. Ça paralyse une activité, on a une perte de données, on a souvent une atteinte à l'image aussi. Il y a une étude qui a été faite par la Haute École de la Suisse du Nord-Ouest qui révèle en fait que 4% des PME suisses, donc ça fait 24 000 entreprises environ, ont subi une cyberattaque grave au cours des 3 dernières années. Et parmi ces entreprises... il y en a 73 qui ont subi des dommages financiers. À votre avis, à combien se monte une rançon en cas d'attaque?
Je pense que ça doit être assez onéreux, 100 000 francs, je sais pas.
C'est par là autour, oui, c'est un peu en dessous. En 2021, il y avait une étude qui avait été faite par une entreprise qui s'occupe de cyberdéfense, qui avait donné 84 000 francs environ.
Ouais, quand même.
De montants à payer pour pouvoir récupérer les données.
Oui, puis on ne les a pas forcément tous. Mais c'est quoi les erreurs qu'on commet, en fait?
Les erreurs, c'est des erreurs qui sont assez simples. Finalement, on parle toujours un peu de la même chose. C'est qu'on utilise des mots de passe qui sont trop simples ou réutilisés un peu partout. Ou alors, on stocke ces mots de passe dans notre navigateur Internet. À savoir que le navigateur Internet, pour ne pas les citer, donc, ils ont la possibilité de vous faciliter de la vie en vous stockant un mot de passe. Et vous pensez qu'il est sécurisé à cet endroit-là, mais il est très facile pour n'importe qui d'y accéder.
Typiquement, si on se dit la prochaine fois que je retourne sur ce site, vu qu'ils ont mon mot de passe, ça ira plus
vite. Il
faut pas le faire.
En fait, votre navigateur, lui, va vous demander pour vous faciliter la vie, est-ce que vous voulez que je stocke le nom d'utilisateur et le mot de passe de site internet?
Vous allez dire oui.
C'est plus facile, oui.
Bah ouais.
Et puis du coup, ce qui se passe, c'est que ce mot de passe est stocké sur le navigateur, qui est stocké localement sur votre PC, sauf que c'est pas des données qui sont cryptées. C'est vraiment très simple d'y accéder, soit de l'extérieur, soit en étant à l'intérieur. Et puis souvent, quand on est dans la machine, on a accès à toutes ces informations-là très facilement. Et ça, c'est la première des choses. Il faut fréquemment faire les mises à jour des appareils ou des logiciels. C'est important. Ça peut être embêtant de devoir mettre à jour un logiciel, mais s'il y a une mise à jour, c'est qu'il y a souvent de la sécurité qui a été rajoutée. Il faut ne pas ouvrir les pièces jointes ou cliquer sur des liens qui sont dans des emails que l'on reçoit, même si ces emails paraissent au visuel comme étant authentiques.
Mon directeur qui m'a envoyé ça, mais en fait, c'est pas le cas.
Le temps est passé on reçoit un email avec des fautes d'orthographe et des tournures qui sont spécifiques, et là, on sait que c'est faux. Aujourd'hui, les attaquants sont assez bons là-dedans. Donc, on peut recevoir un email de notre directeur en pensant que c'est lui qui nous demande d'ouvrir cette pièce jointe pour vite répondre à quelque chose. L'email a l'adresse email du directeur. Et si on va regarder réellement qui est derrière, c'est une adresse email qui est exotique. Il ne faut jamais le faire. Donc, dans le doute, jamais cliquer sur un lien, jamais cliquer sur un email de ce type-là.
Mais il me fait peur quand je l'écoute.
c'est un peu le but, parce que finalement, on se rend compte que plus les gens ont peur de faire faux, moi, ils le font. C'est stupide de le dire comme ça, mais réellement, c'est ce qui marche. Il y a plus grave pour les entreprises, en fait, c'est pas d'avoir de plan de sauvegarde ou de reprise après incident. C'est souvent le cas.
Qu'est-ce que tu entends par reprise après incident?
Finalement, vous êtes... on va en parler un peu après. J'ai un petit exemple concret. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de comment se passe une attaque, finalement. Mais un plan concret, c'est de se dire « Ah, aujourd'hui, nous, on est malheureusement attaqués. On a eu... notre logiciel ou nos bases de données qui ont été bloquées, qu'est-ce que je fais demain en fait? Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Quelle est la suite à faire pour que je puisse récupérer les données? Et la plupart des entreprises ne sont pas équipées et n'ont même pas de plan d'action. Elles ne savent même pas où aller chercher les informations. Donc ça dépend. Et puis pour avoir un petit exemple concret, j'ai pris une entreprise valaisanne. C'est une PME valaisanne, alors ça a été anonymisé.
Ouais, bon, elle reste anonyme.
Elle reste anonyme. Et puis, ce cas de figure, c'est un ransomware. Donc, un peu plus tard, je vous expliquerai ce que c'est un ransomware. Mais l'étape 1, c'est un collaborateur qui a reçu un email apparemment qui était légitime avec un fichier Word en pièce jointe.
Donc, il ouvre le fichier.
Donc, il ouvre le fichier Word. Il se retrouve sur un document avec des informations. Et puis, ce document, à l'intérieur de ce document, il y a une macro. Une macro, c'est une suite de choses qui est établie par quelqu'un d'autre qui se fait automatiquement. Des fois, ça peut être intéressant sur des fichiers Excel ou Word d'avoir une automatisation par un bouton. Et cette macro, en fait, elle va faire en sorte d'activer et d'installer un programme qui est distrait dans le système, qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Et puis, ce système, il va, pendant plusieurs jours, collecter des informations, des identifiants, savoir où vont les sauvegardes, ce genre de choses-là. Et puis, dans ce cas de figure, un vendredi soir, en fait, tous les fichiers, ils ont été cryptés d'un coup. Un message s'est affiché sur l'écran du directeur, comme un peu dans ces films où c'est bloqué avec un cadenas. Et puis, il y a simplement une demande qui est faite très simple, c'est payer 3 bitcoins pour récupérer vos données. Et la question se pose après, c'est de savoir, ok, je suis paralysé, je n'ai pas d'accès, j'ai rien, je ne peux rien faire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je paye ou est-ce que je ne paye pas? Et là, c'est plutôt le plan d'action qu'on a mis en place qui va dire si on paye ou si on ne paye pas. Et puis plutôt le fait de se dire est-ce que c'est vraiment problématique pour moi d'être bloqué ou je peux vivre un ou deux ou trois jours à essayer de récupérer mes données.
Ok, donc ça c'est la première question à se poser.
Ça c'est la première question, exactement. Et la plupart du temps, on se rend compte qu'en fait, avoir tout son opérationnel, toute sa production qui est bloquée, ça vaudra plus cher deux, trois jours de blocage que de payer une rançon. Et malheureusement, c'est souvent le chemin qui est suivi par les entreprises parce qu'il n'y a rien qui est préparé en amont. Et puis, ça ne veut pas dire que, en fait, vous allez récupérer vos données. Alors, la plupart des fois, vous récupérez vos données, mais personne ne vous garantit que ces données sont plus infectées. Et surtout, en fait, vous passez dans une liste d'entreprises qui payent les données. Et la plupart du temps, vous êtes de nouveau attaqué quelques temps après parce que ces gens-là
ils savent que vous payez.
Ils savent que vous payez.
Oh, exact. Mon Dieu.
Comment éviter ce scénario ? Alors, il y a plusieurs possibilités, en fait. Il faut, comme on l'a dit avant, mettre à jour tous les systèmes qu'on a, les logiciels, les antivirus. Il faut éviter d'activer les macros donc dans un document qui serait arrivé qui n'est pas le vôtre. Il faut, très important, mettre en place la double authentification. C'est quelque chose qui est beaucoup à la mode, qui se fait dans passablement de cas aujourd'hui. Vous avez par exemple un accès à votre boîte mail professionnelle ou à votre VPN qui est conditionné à l'ouverture par un code sur des outils comme Authentificator qui est par Microsoft ou simplement un SMS qu'on reçoit comme ça se fait à la banque généralement. Quand vous voulez accéder à votre compte bancaire, vous recevez un SMS ou bien il y a un deuxième outil qui vous permet de pouvoir y accéder. Ça évite l'aspect humain. Donc la personne, même si elle a vos accès, elle ne pourra pas parce qu'elle n'aura pas ce code-là. Une grande partie qui n'est peut-être pas assez faite dans certaines entreprises, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Ça, c'est important parce que quand on sait que les attaques, elles rentrent par
l'email.
La plupart du temps les emails, la plupart du temps, c'est l'humain qui va en fait faire l'erreur. Donc, les types d'attaques qui sont les plus souvent faites en Suisse, on va avoir le phishing. Le phishing, c'est un email ou un SMS frauduleux qu'on reçoit pour pouvoir accéder à des données. On a le ronceau logiciel, donc ransomware. C'est ce que je vous ai expliqué avant. C'est en fait le fait de pouvoir bloquer toutes vos données. Mm-hmm. Le déni de service, c'est du DDoS. En fait, c'est une attaque qui est faite par une entité, quelque part, sur un site en particulier. On prend l'exemple, par exemple, de la Raiffeisen. On peut avoir tout d'un coup, ou n'importe quelle banque, qui est attaquée de l'extérieur par une entité avec beaucoup, en fait, de demandes qui sont faites sur le site internet principal. Et puis, certaines fois, ça peut faire tomber le site. Donc, dans des institutions qui sont conséquentes, c'est des choses qui ont été pensées à l'avance et puis il y a des moyens de contrer ça, donc ça se passe pas, mais il y a eu différents cas de figure où des sites étatiques, par exemple, ont été attaqués de cette manière-là par d'autres États, ce qui est à la mode aujourd'hui, pour faire tomber un service dans l'État.
Oh là là.
Et puis toute la partie ingénierie sociale, ça c'est la manipulation de l'humain. Il y a des gens qui rentrent en contact avec d'autres personnes et puis ça se passe sur des longues périodes. Et ça, le but, c'est que, en fait, de connaître comment fonctionne cette personne, savoir quels sont les automatismes qu'elle a pour pouvoir plus facilement, en fait, arriver à attaquer l'entreprise.
Incroyable.
C'est quelque chose qui, malheureusement, touche un peu, même passablement, l'entreprise. Et puis, dans le fait d'éviter ça, il y a toute une partie qui est de défense. On parlait d'attaquants, mais on a aussi les défendeurs. Et les défendeurs, ça peut être l'humain, par la partie sensibilisation. Et c'est aussi surtout des solutions en fait, qui sont amenées par des appareils ou des logiciels qui sont là en amont, en fait, comme des pare-feux. On a chez Genedis des services où on fournit des services de pare-feux qui sont en location mensuelle si l'entreprise n'a pas envie d'investir en une fois.
C'est les firewalls.
C'est les firewalls, exactement. Mmh. De différentes marques, de différents modèles. Et ces firewalls ont la capacité de filtrer ce qui rentre dans le réseau et puis de donner un peu des garants et puis de faire en sorte qu'on ne puisse pas tout faire dans ces réseaux. Que même si quelqu'un rentre, par exemple, dans votre réseau, qu'il n'ait pas la possibilité d'aller communiquer avec tous les autres PC, typiquement.
Ok.
D'isoler, en fait, un peu le réseau
aussi,
lui-même.
Je pense qu'il faut aller voir les professionnels pour bien se protéger.
Clairement. Il y a deux axes. Vous pouvez aller voir votre professionnel qui est dans l'informatique, qui pourra vous renseigner, qui pourra mettre en place ce genre de solution-là. Ou vous pouvez faire appel à des entreprises de fourniture de services comme Genedis, qui pourra aussi vous aider à mettre en place toutes ces infrastructures qui vous permettent d'être un peu plus serein tous les jours.
Oui, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. On a toujours le sentiment que ça n'arrive qu'aux autres.
Alors non, clairement pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive même souvent à côté. Et ce qui est un peu truqué, c'est que les chiffres qui sont donnés, c'est les chiffres qui ont été... c'est les fois où, en fait, on a signalé ça. Il faut comprendre que certaines entreprises, dans certains segments de certaines tailles, ne vont pas en parler. Parce que ça nuit passablement à l'image de l'entreprise en elle-même.
Ben, en tout cas, merci pour tous ces renseignements. Je crois qu'on arrive au terme de notre entretien. On pourrait encore en parler pendant des heures, hein, Skalsim.
On pourrait parler longtemps, effectivement, oui.
Mais le maître mot, c'est faire attention à ce qu'on fait, aux actions qu'on mène, et puis prendre conseil auprès des spécialistes.
Exactement.
Nous étions, ouais.
Ayez surtout des sauvegardes fiables aussi, ça c'est important, peut-être un point à garder à l'esprit. Si vraiment il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit et puis faire, c'est faites des sauvegardes.
Double sauvegarde même.
C'est ça, une physique et une dans le cloud par exemple.
Ben, merci pour toutes ces informations. Nous étions ce matin avec Skalsim Chakiri, qui est responsable de la vente télécom chez Genedis, et Ivano Bressan, président de la banque Raiffeisen à Monthey. Belle suite de semaine à tous les deux, merci.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup.